le magazine des Nations Unies.
La communauté internationale appuie les efforts du facilitateur pour le dialogue en RDC. La réunion du groupe de soutien pour ce dialogue tenu à Addis Abeba appelle à la tenue de ce dialogue en fin juillet. Nous avons besoin de la paix et ensuite du pain. C'est en tout cas la réponse des déplacés de Bouléoussa à une mission d'évaluation humanitaire dans cette région du Nord Kivu. Les détails avec le chargé de communication de Ocha dans ce magazine. UNPOL, la police de la MONUSCO s'implique davantage dans le processus de réforme de la police nationale congolaise. Le chargé de l'info publique UNPOL nous en dira plus dans un décryptage. Enfin, comment la Commission nationale pour les réfugiés, CNR, gère-t-elle un camp de réfugiés? Nous nous intéressons aujourd'hui au camp Unkié qui abrite les réfugiés centrafricains au nord Ubangi. Le directeur CNR de ce camp est notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Cette semaine a été marquée par la réunion du groupe de soutien lundi dernier au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, pour la facilitation du dialogue national en RDC. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Maman Sidiku Sambo, a pris part à cette rencontre qui a regroupé des personnalités comme le facilitateur Edem Kodjo, mais également l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinit. Le point, c'est avec Jean-Pierre Lali Coco.
Selon un communiqué de l'Union africaine, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la RDC a informé l'assistance sur la situation politique qui prévaut dans le pays. Maman Sidiku a mis un accent particulier sur les efforts visant à convoquer les dialogues nationaux. La situation reste précaire et nécessite ainsi le besoin urgent pour appuyer les facilitateurs à commencer ces dialogues nationaux, a insisté le numéro 1 de la MONUSCO. Au terme des échanges, le groupe de soutien a réaffirmé son engagement dans la tenue d'un dialogue national fructueux avec toutes les parties prenantes et congolaises, de préférence à la fin de juillet 2016. Ce n'est pas tout. Le groupe de soutien pour la facilitation a appelé toutes les parties prenantes à créer un environnement propice à la tenue de ce dialogue national et la communauté internationale de fournir le soutien nécessaire qui contribue à surmonter les défis que connaît la CENI face à l'inscription des électeurs.
Nous le disions en titre, une mission humanitaire conduite par Ocha s'est rendue au site des déplacés de Bouléoussa. Objectif, évaluer les besoins humanitaires des déplacés. Et pour Ocha, certes les besoins humanitaires existent, mais au départ, il faut des préalables sécuritaires. Écoutez plutôt Sylvestre Tumbamudingay, il est chargé de communication à Ocha dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Coco lors de la dernière conférence des Nations Unies.
Concernant par exemple Bouléoussa, il y a toujours dans la zone des préalables qu'on doit remplir. Parce que la solution dans certaines zones n'est pas une solution uniquement humanitaire. C'est vrai qu'il y a des besoins, mais il faudrait aussi que des acteurs impliqués dans la gestion et dans la prévention de conflits s'impliquent pour que la situation soit favorable à la réponse humanitaire.
Inauguration jeudi dernier à Kinshasa des locaux réhabilités par la MONUSCO au siège du mécanisme national de suivi. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, le docteur Diallo, et du coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba. Le docteur Diallo a remis symboliquement les clés des 12 locaux réhabilités. Coût de ses travaux, 80 000 $ américains. Jean-Pierre Elali Coco a assisté à l'événement. Suivez son reportage.
Ce sont là les applaudissements qui accompagnent la remise symbolique des 12 locaux du bâtiment annexe, jadis détruit par un incendie et l'inondation. Ils sont aujourd'hui tous réhabilités et équipés des matériels de bureaux et d'outils informatiques. Et ceci grâce à un financement de la MONUSCO. Le docteur Diallo, représentant spécial adjoint de Ban Ki-moon en RDC, se réjouit de l'aboutissement du projet.
Cette réhabilitation est une réponse concrète à une requête que vous nous avez formulée. Et en réponse à cette requête, la MONUSCO a approuvé un projet à impact rapide d'une valeur de plus de 80 000 dollars américains a été affecté et a permis la réhabilitation des locaux ainsi que la mise en place des équipements, des outils informatiques.
Pour sa part, François Mwamba, coordonnateur du mécanisme de suivi, se félicite de la coopération avec la MONUSCO et émet un souhait.
Mon souhait, s'il m'est permis d'en formuler un, est de voir vos ressources financières accroître afin de mieux nous accompagner encore dans les autres défis qui nous attendent.
Ce projet mis en œuvre par l'ONG Dynamique pour le bien-être social a duré 120 jours, souligne l'architecte Patrick Tchouyou.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La MONUSCO, par le biais de UNPOL, a fait don de 60 motos à la police nationale congolaise à Goma. Le magazine des Nations Unies en profite pour parler de la contribution de UNPOL dans le processus de réforme de la police nationale congolaise. Je vous propose à ce sujet l'entretien que Jean-Pierre Elali a eu avec Mbaye Sadi Diop. Il est chef de bureau de l'information publique de UNPOL. Suivez.
Mbaye Sadi Diop, bonjour.
Bonjour.
Commençons par l'actualité. UNPOL vient de faire lundi dernier un don de 60 motos à la police nationale congolaise à Goma, justement dans le Nord Kivu. Dans quel contexte l'UNPOL fait ces dons et pour quel objectif?
Oui, ces dons sont des dons de la MONUSCO, mais c'est des projets que UNPOL initie et demande le soutien de la MONUSCO pour la PNC. Comme vous le savez, les piliers du mandat de la MONUSCO nous impose de faire la réforme du secteur de la sécurité. Et la PNC fait partie de ce secteur. Et c'est ainsi que la police MONUSCO fait de son mieux pour que cette police-là devienne plus professionnelle, plus opérationnelle. Et c'est dans ce cadre-là que nous initions des projets à impact rapide, appelés communément KIPS, pour faire de telle sorte que la PNC devienne, comme je viens de vous le dire, plus professionnelle.
Et le coût, c'est combien?
Oui, le coût s'élève à près de 100 000 dollars américains. Ces motos sont destinées à la partie sud du Nord Kivu. Nous voulons, à travers ce don-là, simplement rapprocher la police des populations. Parce que, comme vous le savez, il est très difficile d'accéder à toutes les zones. Mais avec ces motos qui sont apparemment des 4x4 en miniature, ils peuvent maintenant se rapprocher des populations et donner la sécurité qu'il faut à ces populations-là.
100 000 dollars pour 60 motos, c'est quand même beaucoup. Alors pourquoi commencer par Goma et pas par exemple à Manono où, selon une certaine presse, la police ne disposerait que d'une moto?
Oui, je vais dire à cette presse-là que c'est simplement un mauvais procès qui est fait. Nous n'avons pas commencé par Goma. Goma n'est que la continuation de ce que nous avions commencé depuis l'année dernière en 2015. Le secteur de Kalemie a aussi bénéficié de ces lots de motos et je peux aller plus loin. C'est pas simplement des motos que nous donnons, nous sommes aussi en train de réhabiliter des commissariats, de construire des commissariats. Rien que pour le mois de juin, 3 commissariats dans le secteur de Uvira sont en train d'être construits.
Et là, c'est au sud Kivu.
Au sud Kivu. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est simplement aider notre partenaire qui est la PNC à travers ces projets KIPS qui ne seront pas simplement des motos. Il y aura aussi, par exemple, si vous allez à Beni, nous avons initié un projet qui nous permettra d'alimenter en électricité les rues de la ville. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, quand une ville est éclairée, les délinquants vont fuir les parties éclairées.
Mais pour le moto, il faudra maintenant renforcer un tout petit peu Manono, par exemple.
Nous n'en resterons pas à Manono. Lors de la remise de ces motos à Goma, le commissaire général Abdou Nassir Aoulé, chef de la composante, a invité et demandé au commissaire général de la PNC de le rejoindre dans quelques jours parce que nous allons réceptionner dans d'autres zones des motos. Et comme je dis, ce ne serait qu'une continuation de ce que nous sommes en train de faire depuis.
Parlons d'autre chose, un autre volet de votre intervention de UNPOL, alors dans les cadres de la réforme de la police nationale, c'est plutôt la formation, vous l'avez dit. Un petit bilan dans les deux dernières années, on peut avoir une idée sur la formation des policiers congolais?
Oui, avant de venir sur la formation, quand on parle de la réforme de la police, permettez-moi de dire, nous avons deux sections qui s'occupent de cela. Il y a celle-là qui s'occupe uniquement de la formation, la coordination de la formation et la coordination de la réforme. La réforme aide notre partenaire PNC à avoir des textes pour gérer sa police. Et parmi ces textes, je peux vous dire que la loi organique régissant l'organisation l'organisation et le fonctionnement de la PNC a été élaboré et déjà est en vigueur, signé par le chef de l'État. Nous avons aussi la loi portant sur le statut du personnel de carrière de la police nationale qui a aussi été signée, et c'est grâce à l'expertise des policiers des Nations Unies ici au Congo qui ont aidé les frères, les partenaires congolais à élaborer ces textes. Revenant sur la formation, je veux dire que des milliers de policiers, c'est pas seulement 2 ans, c'est depuis, mais c'est des milliers de policiers qui bénéficient chaque jour de ces formations-là pour les aider à devenir, comme je vous l'ai déjà dit, plus professionnels, à être une police apte à faire le travail que toute police à travers le monde fera.
Et cela dans quel secteur notamment?
Tous les domaines de la police vont être visités, que ce soit la police judiciaire, que ce soit le maintien ou le rétablissement de l'ordre, que maintenant nous allons appeler la gestion des foules, la gestion démocratique des foules, que ce soit en police des mines, en police routière. Il n'y aura pas un seul domaine de la police où on ne va pas intervenir avec nos partenaires pour les aider à devenir plus professionnels. Aujourd'hui, par exemple, avec la police des frontières, nous le faisons avec l'OIM et nous permettrons non seulement à nos collègues policiers congolais de mieux gérer la frontière, et comme vous le savez aujourd'hui, gérer sa frontière, c'est prévenir certaines choses qui peuvent nous venir du dehors.
Oui, tout à l'heure, vous parlez là de la gestion de foules. La RDC s'engage maintenant vers le processus électoral. Quelle peut être la contribution du UNPOL dans ce processus?
Oui, dans ce processus, nous allons aider la PNC à pouvoir gérer de façon très démocratique les foules. Parce que comme vous le savez, de plus en plus, on ne parle plus de maintien de l'ordre. Nous sommes en train de travailler avec des populations. Nous gérons ces populations-là. Et la meilleure façon de le faire aujourd'hui, c'est de permettre à nos partenaires d'être très professionnels. Le matériel, nous allons même nous investir à payer du matériel ou à les aider à acquérir du matériel de maintien de l'ordre pur et de ne plus utiliser les armes. Et j'ai été très content quand on a été à Goma, quand le commissaire général lui-même demande à ses hommes de bannir tout ce qu'il y a comme armement qui peut tuer et de n'utiliser que les armes pour la gestion des foules.
Justement, là nous entrons dans le domaine de la sécurité. Alors, la sécurité des biens et des personnes, c'est l'une des missions de la police, mais comment UNPOL contribue-t-elle dans la coopération avec les PNC dans ce domaine-là de la sécurité?
Oui, nous contribuons depuis le début à travers ce que nous allons appeler la colocation. Nous allons dans les commissariats, nous travaillons.
Colocation, c'est-à-dire?
Colocation, ça veut dire que nous sommes dans les commissariats, nous allons faire du temps. Toute la journée, on ne quittera le commissariat qu'à la descente. Donc, nous allons avoir des bureaux dans les commissariats, et au lieu d'aller dans les bureaux où c'est simplement des bureaux des Nations Unies, nous allons directement vers les commissariats. Ce qui est nouveau dans cette affaire-là, depuis l'arrivée du commissaire général Awale, qui est le chef de la composante MONUSCO, on est allé faire des patrouilles dans tous nos secteurs. Et pourquoi on a pu travailler avec la PNC, faire des patrouilles.
Patrouilles mixtes.
Mixtes. Oui. Et conjointes pour permettre simplement à la sécurisation des personnes et des biens. Et pour ce faire, nous avions sorti beaucoup de moyens. C'est ainsi que plus du 15 juin au 30 juin, près de 25 000 litres de carburant et près de 90 000 kg en rations alimentaires ont été distribués à la PNC pour pouvoir simplement sortir ensemble et aider les populations.
Et là, c'est dans l'ensemble du pays ou bien c'est localisé, par exemple, dans le Nord Kivu où vous avez beaucoup plus d'attraction?
Non, même ici à Kinshasa, partout où nous sommes présents, on a instruit les chefs de secteur, les chefs de sous-secteur et d'antenne de faire cela. Et ce que nous sommes en train de distribuer, Kinshasa, qui est la capitale, en bénéficie. Le commissaire est maintenant revenu sur Kinshasa. On est présent à Kinshasa avec un secteur UNPOL qui est ici à Kinshasa, qui fait le même travail qu'on fait à Lesotho.
Oui, restons toujours dans les domaines de la sécurité, il y a ce qu'on appelle la ligne verte, c'est-à-dire des appels gratuits mis en place grâce aussi à l'intervention de UNPOL. Comment ça fonctionne, ce système?
Oui, ces lignes vertes ont été installées simplement dans le cadre de la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Beni. C'est d'abord à Beni que ça a commencé et ça a fait des merveilles, ça a poussé...
Des merveilles, c'est-à-dire
oui,
quoi?
Oui, ça nous a poussé simplement à faire reculer la délinquance dans la ville de Beni. Et quand ça a été été présenté, la SOLUB a été présentée à New York. Les polices des Nations Unies ont voulu s'acquérir de la même chose. Mais on a dit, avant de le donner aux autres, nous allons nous aussi faire la duplication. C'est ainsi que Goma, Uvira, Beni et Oicha vont aussi bénéficier de cela. Et les lignes vertes sont installées pour permettre aux populations d'appeler la police. Et il y a des équipes prédisposées qui sont là et qui vont intervenir et répondre à tous les appels des citoyens pour les aider à avoir la tranquillité qu'il faut.
Alors, M. Diop, là, c'est dans l'est du pays et à Kinshasa, il y a aussi le problème de sécurité. Alors,
Kinshasa n'en bénéficie pas parce que, comme je vous l'ai dit, nous étions qu'à l'est quand ces choses ont commencé. Nous commençons à revenir à l'ouest et certainement, avec le besoin sécuritaire qu'il y a à l'ouest et à Kinshasa, nous allons continuer à faire la même chose qu'on a fait aussi à l'est.
Ah oui, pour terminer, M. Diop, un mot sur la coopération de la MONUSCO dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise.
Si je dois dire qu'un seul mot, c'est reprendre les propos du commissaire général de la police nationale congolaise qui disait le lundi dernier, quand il réceptionnait les motos à Goma, que le partenariat entre la MONUSCO et particulièrement entre la police MONUSCO et la PNC est un partenariat juste et fiable.
Voilà. Et Monsieur Diop, Radio Kapi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Nous ouvrons cette page nouvelle en bref par Kalemi dans la province du Tanganyika où est arrivé jeudi le commandant adjoint de la force de la MONUSCO. Le général Jean Bayou a échangé avec les autorités militaires du 22e groupement naval FARDC. Il a confirmé qu'il était venu relancer la coopération entre les forces de la MONUSCO et celles FARDC pour la sécurisation du lac Tanganyika. Le bureau conjoint des Nations Unies a sensibilisé du 6 au 7 juillet dernier les officiers de police judiciaire OPJ de la PNC de la ville-province de Kinshasa sur les droits des personnes gardées à vue. Cette campagne a ciblé les OPJ de tous les commissariats urbains de la capitale. Enfin, le programme alimentaire mondial PAM et la Lutheran World Federation ont distribué entre mai et juillet près de 466 tonnes de vivres à 29 000 déplacés vulnérables et aux familles d'accueil. Nous sommes là à Eringeti et Luna, dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Par ailleurs, le PAM se dit préoccupé par l'augmentation constante des déplacés de population au Nord Kivu en raison de l'intensification des affrontements entre groupes armés et appelle donc les parties concernées au respect du droit humanitaire, indique un communiqué.
Magazine des Nations Unies, bienvenue.
Comme invité, nous proposons aujourd'hui le directeur CNR du camp Inkié. Il est partenaire au ACRM. Il s'appelle Boaz Nswa, administrateur donc du camp des réfugiés centrafricains de Inkié pour la CNR. Il représente le gouvernement.
Monsieur Boaz Nswa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comment se gère un camp de réfugiés?
D'une manière ramassée, un camp de réfugiés est géré par le gouvernement, comme ça dit, par la CNR, la Commission nationale pour les réfugiés. C'est nous qui représentons le gouvernement congolais ici au camp, qui nous gérons et nous avons des collègues, c'est-à-dire des humanités qui sont venus en appui pour assister nos réfugiés.
Mais la CNR fait concrètement quoi?
La CNR, c'est une commission nationale pour les réfugiés. Cette commission vient pour gérer les réfugiés. C'est le gouvernement congolais que nous représentons, c'est-à-dire le gouvernement que nous a mandaté de les représenter ici au camp pour gérer les réfugiés. En réalité, les réfugiés sont les réfugiés du gouvernement. C'est pour ça que le gouvernement a dépêché une commission pour gérer les réfugiés et donner l'information. Comment est-ce que ça se passe au camp? S'il y a des problèmes, c'est nous qui faisons les rapports, hiérarchie, et l'hiérarchie prend les décisions.
Par exemple, sur le plan de la sécurité, le gouvernement gère ça comment pour sécuriser le camp?
En tout cas, merci. Pour le plan de la sécurité, nous avons la police nationale congolaise qui est ici pour la sécurisation du camp et le bien des réfugiés.
Alors, vos rapports avec l'OASR, comment ça se passe?
En tout cas, on travaille en collaboration. On travaille en collaboration à chaque fois si nous avons des problèmes, on se partage les informations et on fait les rapports. C'est-à-dire, quand nous on fait les rapports, on les informe aussi et aussi mêmement. Mais vraiment, on collabore très très bien par rapport à tout sauf rien.
Alors, quelles sont les grandes difficultés auxquelles la CNR particulièrement est confrontée dans la gestion de ces camps?
Bon, il y a toujours des difficultés. Ça ne manque jamais. Ce que moi je peux dire, ça je peux vous dire, on s'inclut les réfugiés. Nous sommes bien organisés d'abord au camp pour le mouvement pendulaire réfugié. Il fait des mouvements, mais nous on est organisés On a dit aux réfugiés, avant de sortir, vous êtes libre de circuler chez nous, mais il faut avoir une autorisation de sortie que nous, la CNR, nous livrons. Et moi, en tant qu'administrateur, je signe, je le donne. Il y a le temps fixé, une semaine, deux jours, trois jours. Il peut aller, il retourne. S'il revient, il revient au bureau, voir où il est de retour. Mais des fois, il y a des réfugiés qui sont un peu, je peux dire, têtis, qui sortent disciplinés, sans même demander. Mais s'il y a un problème là-bas, on nous interpelle, que nous, voilà votre réfugié ici, qui est, par exemple, fait un accident, c'est pas moi, tombé, tout ça. Donc là, ce sont des difficultés en réalité, mais on a été d'essayer, en tout cas, le taux est abaissé, ils ont compris, et il y a beaucoup de gens qui viennent de demander l'autorisation de sortie. C'était vraiment ça comme difficulté.
Oui, mais il y a aussi le problème de violence entre réfugiés même.
Oui, oui.
Violence sexuelle, c'est... des viols, tout ça.
Oh, oui, oui, je pense que partout au monde, je peux dire, il y en a. Ici, entre eux-mêmes, il y en a, mais ce n'est pas vraiment fréquent, quoi. Donc, ce sont des cas rares, mais ça existe. Depuis qu'on est là, on a enregistré certains cas.
Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là quand vous enregistrez un cas?
Nous, on enregistre, on oriente. Nous sommes organisés. Si on a un cas comme ça, on oriente, il y a des partenaires qui s'en occupent d'abord, il y a des psychologues, il y a tout ça, on oriente là-bas et après, il y a la police qui prend maintenant le dossier et pour orienter juridiquement, bien sûr. Donc, les gens là sont toujours punis. Il y a des gens qui sont à la prison de Guadeloupe. Et là, c'est la matière proprement dite de la police et de notre justice qui est en train de faire son travail. Je pense que ça se passe très bien. On oriente le dossier très bien jusqu'à la fin.
Donc, vous n'avez pas de problème de logistique?
Logistique.
Les moyens de transport.
Logistique, on peut avoir des problèmes. Mais on a quand même des moyens de transport, on fait des mouvements. Et si on peut avoir des petits problèmes, peut-être au niveau du carburant qui peut se poser, mais on trouve toujours la solution rapidement pour aller vite.
Vous êtes ici depuis combien de temps vous-même à la CNR?
Moi, c'est depuis l'arrivée de ces réfugiés ici.
Depuis 2013.
2013. J'étais ici à Inke. On m'avait mis à Libengue, comme administrateur du camp aussi. Terminé là-bas, j'ai fait une année, deux ans. On me ramène encore ici à Inke comme l'administrateur aussi.
C'est que vous avez quand même une expérience. Donc, au vu de cette expérience, est-ce que vous avez des leçons que vous pouvez tirer par rapport à la gestion d'un camp des réfugiés?
Oui, par rapport à cette expérience, je pense que gérer un camp, comme gérer une ville, comme gérer des gens, ce n'est pas facile. J'ai tiré un peu de leçons. Je pense qu'il faut avoir d'abord un grand cœur. Il faut avoir aussi beaucoup de maîtrise. Il faut beaucoup écouter. Il ne faut pas écouter seulement pour que l'autre là vienne dire quelque chose. Vous limitez là-bas. Écoutez ces mêmes personnes. Écoutez aussi les autres parce qu'ils peuvent venir accuser l'autre. Il faut écouter aussi la deuxième partie. Donc, j'ai tiré beaucoup de leçons et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour gérer aussi, par exemple, mon foyer aussi. Et en tout cas, je pense qu'avoir un grand cœur, ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices.
Dernière question, M. Boaz. Est-ce que vous avez des suggestions à faire pour peut-être améliorer davantage la situation des réfugiés, améliorer davantage la gestion des réfugiés de ce camp?
Nous avons un problème. Moi, je ne peux pas pour nos réfugiés. Jusque-là, depuis 2013, il y a des abris qui traînent encore en bâche. Ça fait 3 ans. Je suis en train de circuler dans les camps. Il y a des vulnérables, les PBS. Les personnes ont besoin spécifiques qui n'ont pas le courage d'aller couper le stick. Et là aussi, il faut les insister, il faut construire les abris semi-durables, c'est-à-dire même avec les briques adobe et tout ça, et faire ça pour les protéger davantage. C'est ce qu'on a tenté de voir, de faire. Je pense que les collègues ont fait déjà un pas. J'ai la liste de tout ce monde-là qu'on va construire les abris semi-durables par zone, par commune et par bloc. Donc, si on peut nous aider davantage de le faire encore pour tout le monde qui n'a pas la possibilité d'aller couper les sticks dans la forêt et tout. Donc là, je peux suggérer que non, si on peut le faire, ça serait une bonne chose pour les protéger davantage.
Merci de votre disponibilité pour Radio Capi.
C'est à moi aussi de vous remercier parce que faire ce travail que vous êtes en train de faire, c'est avoir aussi la volonté parce que vous avez quitté là où vous étiez, venez nous visiter, c'est vraiment une bonne chose. Vous contribuez aussi à notre gestion du camp. Là, vraiment, je vous remercie encore davantage. Que Dieu vous bénisse.
Nouvelle des provinces, aujourd'hui nous irons à la découverte d'un élève centrafricain du camp Inkié, candidat à l'examen d'État 2016. Honoré Missing à la rencontrer.
Je m'appelle Tchouluma Jonap, je suis centrafricain, réfugié au camp Inkié depuis un an et demi.
Depuis un an et demi, vous voyez avec un macaron d'examen d'État, vous êtes élève donc?
Oui, je suis élève.
Donc vous participez à l'examen d'État congolais?
Oui.
Ça se passe comment?
Je suis étudié ici vers l'Institut Azoutier.
Une école congolaise?
Une école congolaise.
Donc on vous a inscrit là-bas?
Oui.
Vous allez participer à l'examen d'État?
Oui.
Vous avez déjà fait la dissertation?
Oui, la dissertation c'est déjà...
La pratique?
Oui.
C'est dans quelle option?
C'est pédagogie.
Ah, vous faites la pédagogie générale?
Générale.
Alors comment ça se passe dans le camp ici? Est-ce que vous êtes content? Est-ce qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas?
Nous sommes contents, mais pas très tout. Il y a quelque chose qui ne savent pas. Les nourritures qui sont diminuées, c'est ça qui nous fait mal.
C'est surtout ça, la nourriture.
C'est surtout ça.
Alors, quand vous allez à l'école, là, comment vous êtes accueilli par les élèves congolais? Est-ce que c'est la bonne ambiance?
Tout est parfaitement normal. Nous sommes très,
très bien accueillis là-bas.
Oui, avec les autochtones.
Donc, il y a de bonnes relations.
Oui, il y a de bonnes relations.
Est-ce que vous avez peut-être un message, un souhait à émettre par rapport à votre situation? Un message à adresser aux autorités centrafricaines, aux ASR, aux autorités congolaises?
Vraiment, bon, il n'y a pas un message quoi. Précisément, il n'y a pas un message.
Donc vous n'avez pas de message?
Je n'avais pas de message.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de notre confrère Daniel Michon-Béraud de Vision Chala FM de Goma est en rapport avec une rumeur sur la libération du chef de terroriste de l'ADF, Djamid Mukulu, par le gouvernement ougandais. Et c'est Charles Bambara, directeur de l'information publique et porte-parole intérimaire de la MONUSCO, qui répond.
Une rumeur circule sur la libération du chef de terroriste ADF, M. Djamid Mukulu, par le gouvernement ougandais. Celui-ci se cacherait dans un village ougandais de Wassa et prépare le nouveau soutien de ces éléments. Pendant que, suite aux nombreux massacres qu'il a pu commettre au Congo, précisément à Beni, la société civile avait demandé son extradition ici au Congo pour qu'il soit jugé ici, et cela pouvait freiner les restes des terroristes qui seraient en train de terroriser chaque jour ici au Nord Kivu. Maintenant, s'il serait réellement libéré, est-ce qu'on ne pourra pas dire qu'il s'agit d'une négligence de l'Ouganda vis-à-vis de la RDC ou soit l'inactif des mécanismes de vérification?
Vous auriez dû poser cette question à l'UPDF, aux forces armées ougandaises, hein, pour qu'ils vous répondent. Monsieur Djamid Mukulu est en Ouganda, vous parlez de rumeurs. Je crois qu'au niveau des journalistes, il faut éviter de propager des rumeurs. Hein. C'est pas la peine de rapporter des rumeurs parce que, bon, voilà. Essayez de vérifier d'avoir cette information. Nous n'avons pas, nous, à notre niveau MONUSCO, une information comme quoi M. Djamid Mukulu serait libéré. Nous n'avons pas cette information, nous ne pouvons pas la confirmer et nous vous demandons d'être prudents donc par rapport à cela.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je réponds au nom d'Alfred Kafusa Katende. Je suis marié, père de 4 filles et un garçon. Je fais les humanités techniques agricoles. J'ai un diplôme de graduat en développement rural, technique rurale, une licence en management économique, spécialement en organisation scientifique du travail. Actuellement, à l'UNICEF, j'ai un contrat comme assistant au programme, attaché au programme eau, hygiène et assainissement. Mais depuis 6 mois, j'ai fait aussi l'intérim de l'assistant principal à l'administration et des finances du bureau de Mbandaka. En fait, à l'UNICEF, j'ai commencé par le bureau de Bandundu. Donc, en 2008, j'ai commencé comme assistant à la logistique et aux approvisionnements. C'est en 2012 que j'ai été recruté maintenant comme assistant au programme au jeune assainissement au bureau de Bandaka où je me trouve aujourd'hui à l'Équateur. Bon, il faut dire qu'après mes études, quand je finis, j'étais enseignant et chargé de pratique professionnelle à l'Institut supérieur de développement rural. Après, j'ai initié une ONG locale. J'étais coordonnateur de cette ONG dénommée Groupe Technique d'Animation Rurale. Après cela, j'ai été recruté au PAM comme magasinier. Donc, je travaillais au bureau de PAM à Kaemba, dans le Bandundu, à Kikwit, toujours dans le Bandundu. Après la fermeture de ce bureau de Bandundu, je me suis retrouvé au bureau de Matadi, toujours comme assistant magasinier. C'est juste après, j'ai connu juste, je crois, 2 ans, quand le bureau de Matadi était fermé. J'étais comme consultant à une agence en douane appelée Jetman, multimodal. Là, je travaillais en consultance avec le PAM. Donc, je m'occupais de tout ce qui arrivait comme vivre au port de Matadi, le transférer au dépôt de Kinshasa. C'est juste après ça que je me suis retrouvé maintenant à l'UNICEF. Quand j'arrive, la première des choses, c'est vérifier qu'est-ce que j'ai à faire par rapport à l'administration financière. Tout ce qu'il y a comme courriers qui sont arrivés, je contacte le chef de bureau, est-ce qu'il y a-t-il des dossiers urgents. Au même moment, je dois aller rencontrer mon superviseur, le chargé du programme régional d'assainissement. Est-ce qu'il y a-t-il des urgences? C'est par rapport à ça, maintenant, je planifie la journée. Je commence par où pour finir par où. Mais franchement, je vais dire que ce temps ici, je suis plus aux opérations qu'au programme. Bon, le temps libre, généralement, c'est après le travail. Comme tout chrétien, en tout cas, après le temps libre, je suis à l'église. Je suis plus à l'église et quand je rentre, c'est m'amuser avec ma chère épouse, avec mes enfants à la maison. Bon, voilà, c'est peut-être un moment peut-être de promenade avec les enfants, avec ma famille, visiter les amis, voilà. Comme sport, c'est la marche. Oui, comme menu, c'est les anguilles, les poissons qu'on appelle anguilles. Chez nous, on les appelle les misombi. C'est ce que j'aime beaucoup et c'est avec un peu de pondou. Il y a aussi les poissons salés. Mon épouse, quand tu lui poses la question, va te dire c'est les poissons salés, c'est les anguilles. La musique, c'est plus la musique religieuse, surtout quand c'est l'adoration. Tu vois, avec notre bien-aimé Alain Moulotte qui nous a laissé là, juste avec sa musique là, je me sens vraiment à l'aise en la présence du Seigneur. Bon, si je dois quitter l'UNICEF, il y a 2 choses. Dans l'ensemble, c'est m'occuper de ce qui est privé, m'organiser moi-même. Et mais c'est surtout mon rêve maintenant, c'est m'asseoir comme serviteur de Dieu, servir le Seigneur. J'ai beaucoup servi la nation, mais je voulais maintenant me dire que je vais m'asseoir maintenant, servir aussi le Seigneur.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Et voilà quelques rendez-vous à noter dans votre calepin. Le 11 juillet, en tout cas, c'est la journée mondiale de la population. Et puis nous vous rappelons que le 18 juillet, le commandant adjoint des forces de la MONUSCO, le général Jean Bayot, arrive fin mandat. Et à cette même date, la communauté africaine célèbre le Mandela Day. C'est déjà la fin du magazine des Nations Unies. On vous dit merci de nous avoir suivis. Il a été coordonné par Jean-Pierre Elali Koko, Honoré Missinga étant au reportage, à la mise en onde, Dieudonné Nyangasa. Je suis Tina Salama. Je vous l'ai présenté avec beaucoup de plaisir. Ce magazine a été supervisé par Martin Sebujangwe. Vous voulez le retrouver, vous n'avez qu'à taper www.radiocapi.net. Alors on se dit à très bientôt sur Radio Capi. Ciao, ciao et bon dimanche chez vous.